CFM.
CFM Radio.
CFM Corde.
Et quel plaisir de le retrouver, Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vahour. Il est là, il est avec nous. Bonjour Rémi.
Bonjour, bonjour à tous.
Eh bien avec toi, on va parler des travaux du moment en ce mois d'octobre, parce que bon, l'automne, il est bien installé là. Tout le monde est en train de penser à faire son bois et tout ça. Mais il y a encore des choses à faire dans le potager. Bon déjà, là, il y a eu pas mal de mildiou dans la plupart des potagers que je connais dans les environs. Ouais, là.
J'ai eu zéro tomate cette année.
Ouais, c'était pas une bonne année pour les fruits en fait. Hein, entre le gel du mois de mai, tout ça, le mildiou qui était un peu partout, c'était une année bizarre.
C'était une bonne année pour l'apprentissage. Ça m'a fait découvrir pas mal de choses. Ouais. Pas trop avoir confiance en
une
soi.
Année humide comme ça, il y avait beaucoup de limaces aussi.
Ouais.
Beaucoup de limaces. On a eu pas mal de flottes, même si d'aucuns me disent qu'il n'a pas tant plu que ça en fait. Quoi.
Ah, au mois de juillet, on a eu quand même un mois de juillet très 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 humide et pas que ici dans le sud. Hein. Je crois que pas mal de régions en France, c'est le mois de juillet le plus pluvieux qu'on a eu depuis qu'on a fait des relevés météorologiques.
Bon, ben, je tombe que sur des rabat-joie, même de la pluie en fait. Quoi. C'est ça. Bon, allez, contre le mildiou qui vient de se passer, on n'y peut rien. Quoique, peut-être, on va voir s'il n'y a pas des choses à faire.
Ça fait réfléchir aux méthodes culturelles un peu. Quand on a du mildiou partout, ça fait réfléchir sur la sélection de variétés, sur comment on peut abriter, comment on peut isoler un petit peu de la pluie. Ça fait réfléchir un peu quand même.
Ouais. Et peut-être aussi sur des plants à éliminer peut-être du potager, je ne sais pas. Quand on a des plants de tomates, par exemple, qui sont attaqués par le mildiou, on ne le laisse pas forcément au sol.
Il y a plusieurs écoles. Hein. Ceux qui vont vraiment faire un combat contre le mildiou, dès qu'il y a une maladie, on va surtout bien enlever les pieds, les brûler dans un coin, pas les mettre au compost, pas les laisser au sol parce que les spores des champignons restent sur place. Et moi, je suis plutôt dans une philosophie de faire avec, de m'adapter à ça, de sélectionner des variétés. Donc, le fait qu'il y ait le mildiou dans mon système me gêne pas plus que ça. Donc, moi, je les laisse au sol.
Toi, tu les laisses, ouais.
Voilà.
Advienne
et j'ai jamais eu de problème jusque-là. Et sauf cette année où, du coup, bah, là, mes méthodes ont trouvé leurs limites.
Ouais, ouais. Et quand elles trouvent leurs limites, comme ça, tu remets tout en question, tu te dis, faut que je teste autre chose l'année prochaine.
Je remets pas tout en question, mais je me dis, des années comme ça, avec ma méthode, il y aura moins de tomates, donc je vais aller acheter des plants de tomates ou des tomates aux personnes qui y arrivent. Et ça fait remettre en question quelques petits trucs sur qu'est-ce qu'on pourrait cultiver sous serre. Et puis, ça va augmenter le besoin de sélectionner des variétés qui sont résistantes.
Qui sont résistantes, ouais. Ouais.
Parce qu'il y en a qui l'ont moins. Hein. Je me suis pas trop fixé sur ces variétés cette année. Je savais pas que ça allait être aussi pluvieux. Mm-hmm. Bah, savoir que tous les ans, maintenant, je cultiverai quand même quelques variétés qui sont réputées pour être résistantes. Et c'est pas forcément les meilleures.
Les variétés résistantes, on le vend en poupe, on va dire sous la cape. Je m'explique. Hein. Que ce soit pour les tomates, les raisins, etc. On parle de plus en plus des variétés qui sont résistantes à pas mal de choses. Mais sous la cape, parce qu'on a l'impression, sans les nommer, que les gros groupes ne sont pas trop d'accord pour que ces variétés résistantes la circule, parce que sinon ils font moins de beurre.
Ben, ce qu'ils aiment pas trop, c'est qu'on soit capable de les reproduire nous-mêmes et qu'on n'ait plus besoin de leur acheter des semences. Déjà, ça, ils aiment pas. Et si en plus, et là, t'as raison, on a des variétés qui sont résistantes au mildiou, eh ben, on n'aura pas besoin d'acheter de produits phytosanitaires. Et c'est ça leur gagne-pain, donc ils se défendent aussi.
Bon, écoute, on les laisse dans leur coin avec leurs histoires. allez, le sujet du jour, c'est les travaux du moment. On est au mois d'octobre, mi-octobre. Qu'est-ce qu'il y a à faire là dans le potager actuellement ?
Alors, il y aura pas mal de choses liées à la fin des cultures, comme tu me disais. Et puis, il y a surtout un truc où on va commencer déjà à préparer la prochaine saison. Donc là, on va pouvoir commencer à semer des fèves, des pois, des carottes, des choux, à planter des petits bulbes d'ail, d'échalotes, d'oignons. Pour commencer à pouvoir faire des récoltes de printemps, c'est déjà maintenant qu'on peut commencer à semer ça. Mmh. Ensuite, il y a les récoltes à finir. Sur les courges, là, les courges, normalement, les plantes commencent à jaunir, à sécher, et les courges, on va pouvoir les récolter. Par contre, la plupart des courges n'ont pas complètement fini de mûrir. Donc, ce qu'on peut faire, c'est récolter toutes les courges qui restent au sol, et puis les mettre dans un endroit chaud, ensoleillé, pour qu'elles sèchent, pour qu'elles aient pas de risque de pourriture derrière, et surtout qu'avec la chaleur, elles finissent de mûrir tranquillement, pour qu'on puisse manger des courges bien mûres tout l'hiver. Pour les tomates, pareil, ça va être la fin, là, bientôt, des productions. Donc, sur les pieds de tomates, si vous en avez encore qui sont en fleurs, si vous avez la chance d'avoir encore des pieds de tomates, toutes les fleurs qui arrivent maintenant, quelle que soit la région dans laquelle vous soyez, les fleurs qui arrivent maintenant ne vont pas donner de tomates mûres avant l'hiver. Donc, on peut finir de couper ces fleurs pour qu'elles produisent pas de nouveaux fruits et qu'elles se concentrent, que les plantes se concentrent sur la maturation des dernières tomates, des derniers fruits qui restent sur les plants. Voilà, au niveau légumes, il restera que ça à faire. Et par contre, toutes les zones de culture sur lesquelles vous lancez pas de nouvelles cultures, ben ça va être le moment de nettoyer, d'enlever toutes les vieilles plantes sèches qui restent là-dessus, et de soit de pailler ces zones pour qu'il n'y ait pas d'herbe qui pousse là pendant l'hiver et que la zone reste propre au printemps, voire moi maintenant ce que je fais de plus en plus, c'est je sème des couverts végétaux, je sème des engrais verts pour que la zone reste bien végétalisée, et surtout ces plantes qui vont continuer de pousser là pendant l'hiver vont récupérer dans le sol toutes les matières nutritives qui pourraient être perdues pendant l'hiver par lessivage, ça serait dommage, et au printemps ces couverts végétaux, il restera plus qu'à les faucher, les laisser au sol et recultiver là-dedans juste après. Mmh. Et en se décomposant, ces couverts végétaux vont rendre aux cultures de printemps et d'été prochain toutes les matières nutritives qu'elles auront pris, qu'elles auront récupérées pendant l'hiver.
C'est la fameuse jachère. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la jachère ou pas?
La jachère, c'est pas exactement ça. En tout cas, la définition derrière est pas exactement la même. Quand on dit jachère, c'est juste une zone qu'on va laisser pousser naturellement, on va laisser des plantes pousser naturellement pour laisser le sol se rétablir un petit peu. Et ça, ça vient vraiment d'une culture de, on épuise, on abîme les sols. Et donc, de temps en temps, on va laisser une année de jachère. Souvent, la jachère, c'est pendant un an. On va faire nos cycles de culture. Et tous les 3-4 ans, on va laisser le sol en jachère pendant un an. Ça, c'est vraiment sur une philosophie de, on épuise, on abîme, on fatigue les sols et on va les laisser se reposer. Moi, je suis plutôt sur une technique d'aggradation. Et donc, on n'a pas besoin de laisser le sol se reposer. Au contraire, nous, on va stimuler les bactéries qui vont nourrir nos plantes et qui vont être intéressantes dans le sol. Et si on lâchait ça pendant un an, ben on aura un sol qui va s'éloigner d'un sol potager pendant un an et il n'y a aucun intérêt. Donc, l'idée de l'engrais vert, c'est vraiment le terme engrais, c'est pour produire des matières qui vont ensuite nourrir la culture d'après. Donc, l'idée, c'est pas de laisser le sol se reposer, c'est plutôt de le pousser à continuer à s'agréder, à s'enrichir pour pouvoir avoir des plantes qui poussent encore mieux derrière.
Et tu parles de semer de l'engrais vert, hein, ça porte bien son nom, donc c'est des plantes qui vont servir à améliorer la structure du sol ou bien sa constitution,
plein d'avantages. Alors, le terme engrais vient vraiment quand ils ont créé ce concept-là en agriculture, c'était encore une fois dans l'agriculture conventionnelle où on mettait des engrais minéraux solubles dans le sol et notamment de l'azote. Et pendant l'hiver, il y avait ce qu'on appelle le reliquat d'azote, c'est tout ce que les plantes n'ont pas pris qui se perdait par lessivage. Et donc l'engrais vert était là pour récupérer ces reliquats. On s'est vite aperçu que ça récupérait pas que l'azote, ça récupère la potasse, ça récupère plein d'autres trucs. Ensuite, il y a plein de types de plantes qui vont pas forcément récupérer ce qui reste dans le sol, mais même aller dans la roche, dissoudre la roche pour mobiliser, pour aller ramener ce qu'il y a dans la roche, plein d'éléments minéraux pour les rendre disponibles pour les plantes. Ensuite, il y a plein d'autres choses qu'on a découvert, c'est que par les racines, ça va structurer le sol. Toutes les petites racines vont casser les mottes du sol. Pour les gens qui ont des sols trop compacts, c'est intéressant. Les racines pivots qui vont aller en profondeur vont décompacter le sol en profondeur. Le fait qu'il y ait de la végétation va couvrir le sol et va empêcher qu'il y ait de l'enherbement. Le fait qu'il y ait un couvert va aussi éviter l'effet splash. On dit, c'est quand on a un sol limoneux, si le sol est à nu, la moindre pluie qui va tomber sur le sol va créer une croûte de battance. Le fait qu'il y ait un couvert au-dessus du sol va isoler ça. Et il y en aurait plein d'autres. Ça va nourrir la biodiversité. Voilà, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages différents. On pourrait faire une chronique rien que sur les engrais verts, rien que sur les couverts végétaux, si ça te dit un jour.
C'est très intéressant. Avec grand plaisir, mais juste avant qu'on ne termine, quelques noms d'engrais verts. Moi, je connais la consoude, la moutarde aussi.
Alors moutarde, le sarrasin, la veste. Et alors, il y a tout un tas de graminées, donc seigle, blé, épeautre. Il y a tout un tas de légumineuses qui vont fixer l'azote, donc la fèverole, le pois, la luzerne, le trèfle. Il y a la facélie qui est intéressante pour la biodiversité. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et je profite de cette question justement pour rebondir là-dessus en disant, il y a beaucoup de gens qui demandent, alors c'est quoi les graines d'engrais vert? L'engrais vert, c'est pas un type de plante différente, c'est une façon de cultiver. Par exemple, tu vas prendre des épinards, tu vas semer des épinards. Si tu sèmes des épinards pour les récolter, pour les manger, c'est une culture. Si tu sèmes des épinards pour les laisser faire de la végétation, et une fois qu'ils sont bien développés, tu les fauches et tu les laisses au sol, là ça devient un engrais vert. Engrais vert, c'est juste une culture qui n'a aucune vocation à être exportée de la zone de culture, mais qui va vraiment rester sur place pour apporter un avantage au sol. Donc c'est une façon de cultiver plus qu'un groupe de plantes.
Un peu comme cette chronique hein, que vous êtes invité à partager avec vous, donc vous voyez la vocation, elle est multiple. Une description que tu as fait du rôle des plantes avec la biodiversité, avec la structure du sol, c'était pour moi un résumé du rôle d'un arbre. Et tu me vois venir, pourquoi est-ce que je parle des arbres? Parce que la prochaine fois, avec Rémi, on va parler des arbres, parce que l'automne aussi, c'est par excellence le moment où il faut chouchouter les arbres, c'est bien
c'est ça. Ben, là, c'est le moment où on pourrait les planter, où on peut commencer à les planter, surtout que là, on a eu des pluies qui sont arrivées assez tôt. Et puis l'automne, c'est le moment des foires d'automne, où il y a beaucoup de pépiniéristes qui vont commencer à vendre des arbres. Ça va être la saison où on va vendre des arbres à racines nues, là, dans quelques semaines. Donc là, c'est le moment d'aller chercher des arbres, de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut planter dans son jardin.
Et si vous êtes patient, la semaine prochaine, Rémi nous dira sur quels critères se baser pour choisir un arbre. C'est le thème de la chronique de Plantes et Histoire de Plantes la semaine prochaine avec Rémi Kulik du Jardin des Merveilles de Vaour. Merci Rémi.
À bientôt, salut.
CFM Radio, votre radio dans le Tarn.